On est tous ici ce soir réunis pour fêter, entre guillemets, les 11 mois du départ de notre ami, notre mari, notre père, notre frère, le beau-frère, cousin, bref, pour tous l'ami fidèle, David Eliyahu Chai, Ben Meir et Sarah. Baruch Hashem, j'ai eu le mérite de connaître David il y a près de 2 ans au téléphone. Et puis après, on s'est rencontrés, ça fait plus d'un an et demi, il me semble, et on s'est plus lâché. Tout de suite, on est devenus très proches, très amis, et c'est le seul qui osait à la table du Shabbat me raconter des blagues. Les gens, quand ils me voyaient avec mon grand chapeau, ma grande barbe, mon grand manteau, ils ne me prenaient pas pour Zorro, ils me prenaient pour un grand rave. Et David, lui, il était dans la détente, la bonne humeur. Pourquoi ? Parce que pour lui, chaque juif complétait l'autre. Il n'y avait pas un rave s'il n'y avait pas d'élèves. Il n'y avait pas un Rosh Yeshiva s'il n'y avait pas des élèves pour étudier dans la Yeshiva. Donc, de ce fait, il n'y avait pas la place dans sa vie pour l'orgueil, comme normalement il ne doit pas y avoir de place dans la vie de chaque juif pour l'orgueil. On a tous besoin les uns des autres. Kulanu arivim zelazé. On est tous garants les uns des autres. On se complète. Maintenant, aujourd'hui, il y a un membre de la communauté, Rabbi Avraham Guez, qui m'a posé une question extraordinaire sur la paracha Chaye Sarah. Il avait un différend avec un de ses amis. Il m'a dit, Vodarav, dans la paracha Chaye Sarah, il est marqué Lifkota. Dans tous les Sifri Torah et les Chumashim, le kaf de Lifkota, il est écrit en tout petit. Moi, mon ami, il m'a rapporté au nom du Gaon de Vilna la réponse suivante, c'est qu'Abraham, il n'était pas triste au moment du décès de Sarah, parce qu'il sait qu'elle a eu une longue et belle vie. Et il a lu ça dans le Gaon de Vilna. Il dit, il ne me semble pas que c'est ce qu'on m'a enseigné. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Alors j'ai dû lui rapporter ce que dit Rashi dans l'endroit, ce que rapporte le Talmud, la Gemara, sur ce verset, ce que rapporte la Kabbalah sur ce verset, et bien sûr ce que rapporte le Gaon de Vilna. Il est rapporté en réalité qu'Avraham, lorsqu'il a dû quitter la maison de son père Terach, il était affligé, terrassé, à l'idée de devoir quitter son père, vendeur d'idolâtrie, fabricant d'idolâtrie, pour aller vivre en Israël sur la Terre Sainte. Il est loin de son père, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir le respecter, de pouvoir le chérir, de pouvoir être à ses côtés, bien qu'on parle d'un idolâtre, mais ça restait son papa. Il était très triste, et quelque temps avant la mort de Sarah, avant la Histalkout, avant que la Neshama de Sarah quitte ce monde, il avait perdu son père. Il est parti aux obsèques. Il est parti à l'enterrement. Il a pris sur lui le deuil de son père. Il a énormément pleuré. Pour quelle raison? Il s'est dit, comment j'ai pu faire teshuva autant de monde et j'ai pas réussi à ramener mon propre père? Il a pleuré énormément. À un tel point que Chachamim nous ramène que parce qu'Avraham a trop pleuré à l'enterrement de son père, ça a ramené sur lui de mauvaises choses. On dit comment un tzaddik pareil? Dieu s'est dévoilé à lui. Il lui a donné l'occasion de changer la face du monde, de permettre au monde de connaître enfin le monothéisme. Il a eu une femme exceptionnelle, Sarah. Et lui, maintenant, il pleure comme ça pour son père. On dit que quand on pleure trop à des obsèques, ça peut, chas v'shalom, attirer de très mauvaises choses, de très mauvaises sanctions dans le ciel. À un tel point que dans le ciel, il a été décidé qu'on allait lui retirer sa femme. Alors bien sûr, on connaît tous l'histoire par rapport à la Akedat Yitzhak, que Sarah, quand elle a entendu que son fils, il aurait été sacrifié et puis sauvé, alors ça lui a fait un tel coup au cœur qu'elle en est partie. Mais en réalité, dans le ciel, s'ils ont permis qu'elle parte à ce moment-là, c'est parce qu'Avraham, il avait trop pleuré à la mort de sa femme, et il a marqué Lifkota avec un petit kaf, parce qu'Avraham, à ce moment-là, avant de s'occuper même du décès de sa femme et des obsèques de sa femme, avant d'acheter le caveau des patriarches, la Maharat Amarpella, il s'est occupé du mariage de son fils, de trouver une femme à Yitzhak. C'est comme ça qu'on nous rapporte. C'est comme ça qu'on l'a vu dans la paracha. Et qu'Abraham, il s'est retenu de ne pas trop pleurer pour la mort de sa femme. Et effectivement, le Gaon de Vilna rapporte tout cet enseignement et conclut qu'en plus de ça, pour Sarah, il avait moins de raisons de pleurer que pour son père Terach, vu que Terach n'avait pas réussi à se repentir totalement, alors que Sarah, oui. Et Sarah, elle a eu une longue et belle vie de Tzadkanit. Raison pour laquelle il avait aussi sur quoi se reposer pour moins pleurer. Et par rapport à ça, on dit, ah, on ne comprend pas quand même, c'est son père. Son père. Père en père. Oui ou non? C'est difficile, on pourrait comprendre. Il dit non. Pourquoi? Le Talmud nous rapporte que le monde dans lequel on vit s'appelle Olam HaAfour. Je sais que je le dis souvent, je sais que je l'ai déjà dit ici. Olam HaAfour, c'est un monde à l'envers. On est dans un monde qui marche sur la tête. Quand dans ce monde, on accueille un enfant, un nouveau-né, nous, on se réjouit ici. On est content. Lili, lili, lili. Si c'est un garçon, oh, la Brit Mila, c'est encore mieux. Voilà, voilà. Maintenant, en réalité, dans le ciel, ils sont très tristes. Ils disent, regarde cet enfant. Il descend dans ce monde. Il va devoir gérer son corps, le monde matériel, sa subsistance, le shlom bayit avec sa femme, fonder un foyer, mettre au monde des enfants, les éduquer, se casser la tête. Wow, wow, qu'est-ce qu'il attend? Et à travers tout ça, il doit faire Torah au mitzvot et ne pas oublier d'être un tzaddik, comme c'est rapporté dans Masechet Sanhedrin, que chaque neshama, avant de descendre dans ce monde, on lui fait jurer qu'elle s'engagera à faire la volonté divine et que ce sera un tzaddik ou une tzadkanit et pas un rachat ou une rechaït. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'enseignement essentiel qui nous est rapporté et qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, lorsqu'on vient et qu'on est dans ce monde, il y a énormément d'épreuves pour nous. Et dans le ciel, ils sont extrêmement tristes. De la même façon, lorsqu'une personne quitte ce monde, après avoir sanctifié le nom divin auprès du plus grand nombre, avoir donné du respect au rabbanim, du respect à la Torah, avoir mis ses enfants à l'école juive, avoir voulu donner un enseignement dans le judaïsme à sa progéniture, à son foyer, avoir réussi à rapprocher tous les gens qui étaient autour de lui. Dans le ciel, vous savez comment on est quand on accueille un juif pareil. Dans le ciel, ils sont joyeux, ils chantent, c'est une simcha pour eux. Et nous, ici-bas, on est tristes. Pourquoi? Parce que la personne va nous manquer. Alors bien sûr, David, il va nous manquer. Et bien sûr que David, il nous manque. Et bien sûr qu'on est triste. Mais il est parti avec ses mitzvot. Dans le ciel, quand ils l'ont vu arriver avec ses mitzvot, c'était un homme. Quelque temps avant son départ, il était parti en Israël. C'était pour Al-Akhnasa d'un Sefer Torah pour l'armée. Il était le plus joyeux des hommes. Et lorsque l'armée lui a remis un trophée pour le remercier d'avoir permis à une base militaire d'avoir un Sefer Torah, il était très fier de lui. Très fier de pouvoir faire une mitzvah, de pouvoir aider. J'ai eu des rabbanim et des rabbanim qui m'ont dit, ah, tu sais c'est qui? Rabbi David Taïeb, tu sais c'est qui ce monsieur? C'est un monsieur que lorsqu'il nous accueillait chez lui, pour qu'on allait le voir pour lui demander un petit don, il ne savait pas donner l'argent et dire au raf, je suis occupé, partez. Il disait à tout le monde, attention, aujourd'hui il y a un grand raf qui vient, on va faire un cours au bureau, on va organiser une séouda. Quand tous les vendredis à la maison ou à son bureau auparavant, il faisait devenir son ami d'enfance, le Rav Mordechai ben Naftali, il ne pouvait pas organiser un cours de Torah simplement. Il fallait que ce soit une belle séouda, que les gens se mettent déjà dans l'ambiance du Shabbat. Il avait cette volonté que les gens se mettent dans l'ambiance pour les renforcer, pour les encourager à faire le Shabbat, à faire les mitzvot. C'était son plus grand hobby, sa plus grande passion, la chose qui lui tenait le plus au cœur. Be'ezrat Hashem, que Dieu fasse que ses enfants continuent sur son chemin et aillent dans sa lumière. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit de ce fait, si on a la émouna, on a la croyance, on sait que dans ce monde, on est dans un monde à l'envers. Et là, en réalité, lorsque nous on vient et on s'afflige, lorsque quelqu'un part, il faut savoir que en haut, on se réjouit d'accueillir la personne avec ses mitzvot. Alors, maintenant, on est tous ensemble pour fêter les 11 mois. C'est quoi les 11 mois? Pourquoi 11 mois? Il a rapporté dans la halakha que, et dans le Talmud, qu'une neshama, une âme, si elle a fauté, elle devra rester maximum 12 mois en enfer, dans le Géhinnom. Là-bas, la neshama, elle va être purifiée, elle va passer par tout un processus assez complexe pour purifier cette âme, pour qu'elle puisse être accueillie dans le Gan Eden. Au cas où une neshama est rentrée au Géhinnom, lorsqu'elle est accueillie en haut, on a pour coutume d'arrêter à la date du 11e mois, pendant un moment, les Kaddish, pour dire non, on célèbre les 11 mois, parce que Akadosh Baruch Hu, qu'il fasse que ce soir la personne sorte du Géhinnom, si elle y a été, qu'elle ne soit pas jugée comme étant un rachat gamour, un mécréant, un impie total. C'est pour ça qu'on est tous là ce soir. Et on a coutume de le faire pour tout le monde. On a coutume de le faire même pour des très grands rabbanim, pour des gdolé ador. On le fait pour tout le monde. Parce qu'on ne sait pas dans le ciel comment on est jugé. On est jugé chacun par rapport à son niveau. Il y a des histoires et des histoires à raconter sur des rabbanim. Il y avait le Rosh Yeshiva de Ramleh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, lorsqu'il est parti de ce monde. C'est un grand tzadik qui a fait un très grand zikouya rabim. Il y a un de ses élèves qui est très connu, le Rav Amnon Yitzhak. Tout le monde le connaît aujourd'hui, le Rav Amnon Yitzhak. Et c'est très fort. Il ne parle qu'en hébreu. En France, tout le monde connaît ses cours. Ils ont été sous-traités dans toutes les langues. Il a fait des balais tchouva et des balais tchouva et des balais tchouva. C'est un des élèves de ce Rosh Yeshiva. Un des élèves. Des élèves comme ça, ce Rosh Yeshiva, il en a des milliers. Quand il est parti, on dit, oh, quel grand tzadik, oh, qu'est-ce qui peut lui arriver? Ce qui s'est passé, c'est que durant la période des Shivas, après son décès, il est venu en rêve à toute sa famille et tous les élèves qui ont étudié dans sa yeshiva. Et tous ont eu le même rêve. Il leur dit, oi, 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 si vous saviez en haut dans le ciel comment on est jugé, quand on est rave, quand on est roche yeshiva, la moindre petite misva, comment elle a été faite, on vous la décortique. Et la personne, elle est jugée comme ça dans le ciel. Elle est jugée dans le ciel. Il a dit, je vous en supplie, pour moi, faites des prières, faites teshuva. Tous les élèves ont eu le même rêve. Tous les élèves ont pris sur eux de faire teshuva, de se renforcer pour le Rosh Yeshiva. Et bien, au Hachem, il est revenu les voir en rêve en leur disant, par votre mérite, par vos prières, par vos ma'asim, on m'a laissé rentrer directement au Gan Eden sans passer par le Géhinnom. Un Rosh Yeshiva. De la même façon, il est rapporté par le Rav Yehoshua Bessis, qui avait un juif en Tunisie chaque année, qui ne savait pas lire et qui ne savait pas écrire en hébreu. Il ne savait pas. Il ne savait pas faire la prière. Et là, chaque année à Kippour, il était avec tout le monde, du début jusqu'à la fin de la tefila, il ne bougeait pas de sa place alors qu'il ne savait pas prier, il ne savait pas lire. Il restait en silence, il attendait la Nehila. Et au moment de la Nehila, il faisait coucou, coucou. Pourquoi ? C'était un éleveur de poulets. La seule chose qu'il savait faire, c'était le cri du coq. La première année qu'il a fait, tous les gens dans la synagogue lui sont tombés dessus. T'es devenu fou ? C'est la Nehila. C'est la prière la plus importante de l'année. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que t'es en train de nous faire ? Tu te fais le cocorico dans la synagogue ? Ah, mais je suis abaissé s'il les a tous arrêtés. Il a dit, je vous arrête tout de suite. Cet homme, il a mis une telle intention dans sa prière. Il ne sait pas prier, il reste dans le silence. Il jeûne, il écoute la prière. Il aime, il apprécie la prière. Il aime la Torah. Son cocorico à lui, il a fait passer toutes les prières du clan Israël dans le ciel. On a tous été pardonnés grâce à son petit cocorico à celui-là. C'est une histoire vraie qui est rapportée dans les Chutim de Tunisie et qui a été mixée à toutes les sauces. On va retrouver cette histoire dans tous les courants du judaïsme. Baruch HaShem, comme quoi la Torah est une. David, il aimait bien que je dise ça. Par rapport à ça, il faut voir une chose qui est extraordinaire. Cet homme, lorsqu'il est parti de ce monde, il est rapporté par le Rav Yehoshua Bessis qu'il est venu en rêve à toute la communauté pour leur montrer que son amour de la Torah et son amour des prières et des rabbanim a fait que dans le ciel, il a été jugé comme étant un tzaddik gamour v'shalem. On parle là d'un Rosh Yeshiva d'un côté, qui a eu des milliers d'élèves, qui ont fait faire teshuva aux gens, et de l'autre côté d'un éleveur de poules, qui ne savait pas étudier la Torah, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire. Mais son intention, son cœur, comment il était pur, a fait de lui un tzaddik placé au-dessus des autres. Ce qui veut dire que nous, on ne peut pas venir ici dire et savoir comment une personne qui aurait peur de ce monde, elle est jugée. Anistarot la Hachem, les mystères de ce monde sont pour l'éternel. Nous, on ne peut pas dire. On ne peut pas venir affirmer qu'une personne, où elle a été, quand elle a été, comment elle a été. Raison pour laquelle on a coutume le soir des 11 mois de se réunir, pour au cas où la personne a été jugée de façon négative, du fait qu'on se réunisse et qu'on dise non, pour nous, c'était quelqu'un de bien, il a eu une influence sur nous. Il a été important pour nous, il nous a rapprochés de la Torah, des mitzvot, à travers sa vie, et a fortiori à travers son décès, parce qu'on est tous là pour, entre guillemets, célébrer l'union de la Neshama de David avec Akadosh Baruch Hu. On voit quoi? On voit que la personne, d'un seul coup, ça ne peut qu'élever son âme. Et là, on va parler d'un point essentiel. Il est essentiel, lorsqu'une personne part de ce monde, que l'on récite le Kaddish pour elle. Le Harizal l'a écrit lui-même, et l'a écrit, et l'a fait écrire par ses élèves, dont le Rav Chaim Vital. Et le jour où je partirai de ce monde, je supplie ma progéniture, je supplie mes élèves, ceux qui peuvent, faites Kaddish pour moi. Chaque Kaddish que vous récitez, elle lèvera ma Neshama de monde en monde. Le Gaon de Vilna et le Ben Ishraï ont pleuré lorsqu'ils sont arrivés dans leurs vieux jours, pour la même raison. Quelle raison? Le Talit Katan, les Tzitziot, ils ont dit non, quand nous on va partir de ce monde, une mitzvah simple à accomplir, comme porter un Talit Katan sur nous, on ne pourra plus la faire. Vous savez c'est quoi le Talit Katan? Chaque unité de temps que vous portez sur vous, le Talit Katan, c'est une mitzvah. Ce qui veut dire que grâce à l'Italie de Catane, si on voit la plus petite unité de temps connue de l'homme aujourd'hui, en l'espace de quelques minutes, on peut faire des milliards de mitzvot en portant l'Italie de Catane. Le Gaon de Vilna et Ben Ishraï et des grands tzadikim nous disent quand nous, on n'aura plus de corps, on n'aura plus les mitzvot pour nous. Qu'est-ce qui nous restera? Il nous restera nos élèves, il nous restera notre famille, notre progéniture, qui prendront sur eux de bonnes actions. Il est essentiel, primordial, que ce soir, les gens prennent sur eux de bonnes résolutions. Les Ilui Nishmat de David Eliyahu Chai Ben Meir Vesara. C'est primordial. Chacun doit prendre quelque chose sur lui. Celui qui ne met pas ses tefilines, qui mette les tefilines. Celui qui met les tefilines, qui prenne sur lui de faire ses tefilotes. Trois fois par jour, ou au moins une fois par jour. Que chaque personne prenne un petit truc en plus. Chacun ici. Baruch Hashem. Les Ilui Nishmato. Pour rajouter à son mérite, pour l'élever dans les mondes supérieurs. On voit que Avraham, lorsqu'il a pleuré pour Terah, pourquoi il a pleuré autant pour son père? Je l'ai expliqué au début. Il a dit, j'ai pas pu faire teshuva, mon père. Pourquoi entre Avraham, Yitzhak et Yaakov, les Avot, on nous rapporte que les Shvatim, les tribus, elles sont sorties de Yaakov, le troisième des patriarches. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Avraham, il a tenu à ce qu'on aille prendre la femme de Yitzhak dans la maison de Bethuel, son oncle. Qu'on aille là-bas pour prendre Rivka. Yaakov va retourner encore dans la maison de Lavan, le même Lavan qui va céder sa sœur Rivka à Eliezer en mariage pour Yitzhak. Yaakov va retourner dans cette maison pour épouser toutes les filles de Lavan. Les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Lavan, il avait quatre filles. Il n'avait que quatre filles. Il avait Léa et Rachel, qui étaient les filles de sa première femme. Il avait les filles de ses servantes, Bila et Zilpa. Que fait Yaakov? Yaakov, on nous rapporte dans le Zohar, que intentionnellement, il a épousé toutes les filles de Lavan. Pourquoi? Pour faire la réparation qu'a regretté Avraham au moment du décès de son père. Quelle était cette réparation? Permettre à toute la descendance de Terah de pouvoir faire teshuva en prenant toutes les filles et en les convertissant. On nous dit comment on apprend les lois de la conversion, le Talmud nous dit. On apprend de Avraham et on apprend des Imaot. Avraham s'est converti au judaïsme. C'est le premier à s'être converti au monothéisme de façon aussi efficace en faisant Torah au Mitzvot. Et il a converti, il a enseigné à Yitzhak et à Yaakov comment convertir les Imaot. Toutes les Imaot se sont converties. Ça remet les choses au clair. Quand aujourd'hui, dans la communauté, on voit des gens qui veulent se convertir et qu'on n'arrive pas à comprendre quel effort c'est. Combien c'est dur quand on se rappelle qu'à la source du clan Israël, il n'y a que des convertis. Ça remet les idées en place. Par rapport à ça, il faut bien comprendre, c'est quoi le but du clan Israël dans l'humanité? Il est rapporté que le but du clan Israël dans l'humanité, c'est d'être un peuple de prêtres. On a chez nous les Kohanim, ce sont les prêtres du peuple juif, mais le peuple juif, c'est un peuple de prêtres pour les autres nations. Pour, à travers notre accomplissement de Torah et Mitzvot, être un exemple pour les autres nations et les inspirer pour qu'ils aient envie de faire les sept lois de Noé.
Je suis désolé. Ford blanche qui s'est installée juste à l'entrée du parking qui empêche le personnel de sortir.
On voit par rapport à ça, on voit que les grandes tzadikim, pour eux c'était essentiel. Il y a un mouvement dont David était très proche, le mouvement Lubavitch. Il y a des gens qui posent la question, pourquoi le rabbi il habitait au 770? C'est un numéro particulier, tout le monde dit, ah 770 quel numéro? Il y a beaucoup d'explications au 770. Mais une des explications, c'est 7 lois pour 70 nations. Le rabbi Lubavitch Zatzal tenait énormément à ce que le peuple juste fasse teshuva pour ramener la Gioula et permettre aux nations de faire les 7 lois de Noé. Chaque personne ici, surtout dans une communauté comme l'Alliance, lorsqu'elle a l'occasion de pouvoir se renforcer, elle donnera aussi l'occasion aux non-juifs qui les fréquentent, dans le travail, dans la communauté, de se renforcer, de prendre sur elle les 7 lois de Noé. Il faut savoir ici que s'il y a des non-juifs ce soir, chose extraordinaire. S'ils prennent sur eux les 7 lois de Noé qui ne sont vraiment pas compliquées, ça peut contribuer à l'élévation de l'âme de David. Oh. Et à la délivrance pour l'ensemble de l'humanité. Oh. C'est ça le but de la Torah. C'est ça le but, c'est pas, y a pas un autre but. On parle dans la Gemara de deux types de Géoulot, de deux types de délivrance. Une à travers les guerres, à travers les souffrances, à travers les épreuves. Et une à travers la joie. On rapporte dans le Talmud, je sais que je l'ai déjà dit, mais on va le dire et on va le rappeler. On rapporte que si tous les bénis d'Israël sont unis, mais sont idolâtres, Mashiach, il peut venir, peut y avoir la Géoula. Mais quel type de Géoula? À travers les épreuves, les guerres, les maladies. Si tout le cas d'Israël prennent sur eux deux Shabbatot de suite, et les gardent, qui il chata, donc étudient la Torah comme il faut pour connaître les lois du Shabbat, on dit la Géoula vient tout de suite. Et là, le Rambam, dans Yichot Melachim, nous rapporte quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, cette Géoula-là, si elle vient, c'est une Géoula sans épreuve. On a des tzadikim ces dernières générations qui ont tout fait pour qu'il y ait une Géoula sans épreuve. Comment il peut y avoir une Géoula sans épreuve si chaque juif se renforce sur les lois du Shabbat, sur les lois de la cacheroute, sur les lois de la pureté familiale, car ainsi, en se renforçant, ils auront une plus grande moralité. Ils inspireront les autres nations à vouloir se renforcer et faire les sept lois de Noé. Et vous savez, c'est quoi? Paix universelle et la Géoula. Et on est sorti d'affaire. Be'ezrat Hashem, je vous rappellerai qu'au moment de la Géoula, on aura le mérite, Be'ezrat Hashem, de revoir nos défunts, de les voir se lever à Yerushalayim, pour qu'on puisse tous ensemble célébrer la délivrance et la paix dans le monde. Et qu'on ait le plaisir, Be'ezrat Hashem, de revoir David très bientôt. Et je terminerai sur un dernier point. Parce que c'était sympa tout ce que j'ai dit. Il faut qu'on se fâche un peu, sinon c'est pas marrant. On nous rapporte qu'à Kadosh Baruch Hu, pour faire le Triat Ametim, il prend une chose extraordinaire. Il prend l'essence de l'énergie de la pudeur des femmes. Les mères d'Israël ont dit que c'est grâce à elles que le peuple juif a été sauvé au moment de la sortie d'Égypte. Et on rapporte que la délivrance arrivera aussi par le mérite des mères d'Israël. Les mères d'Israël, elles ont une mitzvah très compliquée à devoir respecter. La pudeur, la tzniout. Très, très compliquée. Très compliquée. C'est très, très dur. Quand une femme, elle prend sur elle de se renforcer, chacune à son niveau. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire ou pas. Quand les femmes prennent sur elles de se renforcer, il est dit que l'énergie des perles de sueur de ces femmes-là est cumulée dans le ciel. Et que Dieu transformera cette énergie en rosée pour amener les morts à la vie. Et il y a un enseignement du Zohar qui est très peu connu et que je vais vous rapporter et qui va choquer les gens. Il est rapporté qu'au Triat Amitim, tout le monde le sait, seuls les plus justes pourront se relever. Dans un premier lieu, les plus grands tzadikim se relèveront au Triat Amitim. Moshe Rabbeinu, David Ameler, Yosef et les autres. Après, au fur et à mesure, les gens se lèveront au Triat Amitim à travers les âges, car la Géoula devra durer durant 1000 ans, quand Machiav va venir. À travers ces 1000 ans, les tzadikim vont se lever les uns après les autres, par ordre. Mais il y a des personnes qui risquent de ne pas avoir le mérite de se lever au Triat Amitim. Il est rapporté quelque chose d'extraordinaire. Il est rapporté que si les mères d'Israël, à travers les époques, prennent sur elles la tzniout, par le mérite de leur tzniout, Akadosh Baruch Hu pourra venir pardonner à ceux qui n'auront pas le mérite de se lever au Triat Amitim, et par ce mérite-là, ils pourront tous se relever au Triat Amitim. Oh, la pudeur. La pudeur, ce n'est pas qu'un vêtement, c'est une façon de parler, c'est une façon de se comporter, c'est une moralité, c'est d'être dévoué à son époux, à sa famille, à son foyer, tout en sachant s'opposer parfois à son époux quand il y a besoin pour le renforcer dans le Derech HaTorah et l'encourager quand il faut pour aussi le renforcer dans le Derech HaTorah et renforcer le foyer. Que chaque femme ici présente ait le mérite, les Louis Shmato de David, de se renforcer dans les lois de la tzniout, les lois de la pudeur. Be'ezrat Hashem, que chaque personne ici à son niveau, par rapport à son statut, ait le mérite de se renforcer dans les lois dans lesquelles il doit se renforcer pour les juifs, Tariag HaMitzvot, les 113 commandements et toutes les lois qui vont avec. Pour les non-juifs, les 7 lois de Noé, Bezrat Hashem, les Nishmato, pour qu'on ait tous ici ensemble le mérite de profiter de la délivrance et enfin de sortir de cette galère. Amen, Kenny Ratson.